profil.rock.com. Profil, c'est 30 ans de découverte musicale.
Amateur de rock, le samedi soir, c'est à CKIA que ça se passe avec l'émission Évasion Rock. Je vous y invite le samedi 21h.
Bonjour, ici Juliane Perrault. Voici votre bulletin du vendredi 27 mars 2026. Jusqu'au 2 avril, le bulletin de nouvelles de CKIA est remplacé par un bulletin de grève. Il s'agit d'une mesure de solidarité avec le mouvement Le Communautaire à bout. Le milieu communautaire n'est pas une œuvre de charité, il constitue un pilier essentiel de la société québécoise. Il assure la cohésion sociale, l'entraide, le respect et la dignité humaine là où l'État se retire. Sans lui, des milliers de personnes seraient laissées pour compte. Il est temps que le gouvernement comprenne, le milieu communautaire ne demande pas la charité, il exige la justice sociale. Parmi les revendications figurent des conditions de travail décentes. Les travailleuses et travailleurs du communautaire méritent des salaires et des conditions qui reflètent l'importance et la complexité de leur travail. Il n'est plus possible d'accepter l'épuisement professionnel, la précarité et le roulement constant de personnel. À Beauport, Trip Jeunesse Beauport organise aujourd'hui un spot feu spécial mobilisation. Toute la communauté est invitée à se joindre à l'action qui a lieu de 15h à 18h30 au pavillon royal 3365 Chemin Royal. Depuis 10 ans, le service de référence en périnatalité pour femmes immigrantes de Québec est porté à bout de bras par l'équipe qui affirme que la situation ne peut perdurer. Le risque de mettre la clé dans la porte est réel. L'organisme dénonce le fait de devoir survivre avec des miettes en recevant un financement insuffisant pour répondre aux besoins réels des bénéficiaires et qui ne permet pas d'offrir des conditions de travail dignes à l'équipe. Dernièrement, 3 postes ont dû être abolis. L'organisme a dû quitter son local et l'équipe a dû couper ses assurances collectives. Pendant ce temps, les demandes explosent et plus de 50 demandes ont été refusées cette année. Sans financement adéquat, l'organisme devra en refuser d'autres. Toute l'équipe du Centre de recherche sociale appliquée est solidaire du mouvement Le Communautaire à bout. Le Centre de recherche sociale appliquée soutient le pouvoir d'agir des organisations et des collectivités. Pour ce faire, il a recours à la recherche sociale pour accompagner les groupes dans leur analyse des problèmes sociaux et la synthèse de leurs pratiques. Son approche participative permet de mettre à profit les savoirs des milieux pratiques, ceux des personnes concernées et les savoirs théoriques. Les résultats obtenus deviennent des outils de développement pour les organisations et les communautés. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Toute simplicité. Chaque matin était une invitation enjouée à m'assurer que ma vie fût aussi simple, aussi innocente, pourrais-je même dire, que la nature elle-même. je fus un adorateur d'Aurore, aussi sincère que pouvaient l'être les Grecs. Je me levais tôt et me baignais dans l'étang. C'était un exercice religieux, une des meilleures choses que je fis jamais. Le matin fait renaître les âges héroïques. J'étais aussi touché par le vrombissement subtil d'un moustique que, faisant sa ronde invisible et inimaginable dans mes appartements, aux toutes premières heures de l'aube, portes et fenêtres ouvertes, que j'eusse pu l'être par aucune trompette ayant jamais sonné l'air de la renommée. C'était le requiem d'Homère. Son vol était à lui seul l'Iliade et l'Odyssée, chantant sa colère propre et ses propres errances. Cela avait quelque chose de cosmique, comme une déclaration perpétuée jusqu'à ce qu'on l'interdit, de l'éternelle vigueur et de l'éternelle fertilité du monde. Le matin, qui est la période la plus marquante de la journée, est l'heure du réveil. C'est au matin que nous avons le moins de somnolence en nous, et l'espace d'une heure, au moins, une part de nous s'éveille qui demeure en sommeil tout le restant du jour et de la nuit.
C'est une grande joie de marcher avec vous, Henry. Je me sens empressée de vous dire ma confiance.
Je remplace monsieur si loin de son foyer.
Vous êtes l'éclat vivant de la providence.
J'aime veiller sur la maison, les enfants et les fleurs. Je serai toujours là, quoi qu'il arrive.
Auprès de moi, je vous sais craintif et rêveur.
L'amitié supporte les absences de l'âme pensive. Il faut écrire, laisser sa trace, écrire. Choisir la vie, le murmure et le cri. Il faut écrire, laisser sa trace. Écrire l'âme est si vaste. Il faut écrire, choisir la vie, le murmure et le cri. À mon égard dans la nuit noire.
Emerson vous appelle l'arpenteur des tempêtes.
Je ne mène pas une vie tranquille de désespoir. Il faut écrire, laisser sa trace. Écrire. Il faut écrire.
Alors, bienvenue à Toute Simplicité. Aujourd'hui, on va terminer un peu notre série d'émissions sur Thomas de Coninck, là, comme je vous ai déjà dit, là, qui est décédé il y a environ un mois. Ensuite, j'ai un petit livre qui vient de sortir que j'ai trouvé intéressant. C'est aux éditions À propos, philosophie et crise climatique. C'est une petite plaquette là, de 15 $ là, pour ceux que ça intéresse. Alors, je vais vous lire un des essais qui est publié dans ce petit volume. Avant ça, pour commencer, là, j'ai ma petite revue de presse et des annonces à faire. Alors, lundi prochain, le 30 mars, c'est la journée mondiale du zéro déchet. Et le comité zéro déchet là, des Amis de la Terre organise une activité à la Bibliothèque Gabriel-Leroy, lundi le 30 mars à 17h30. Alors, pour ceux qui s'intéressent, il va y avoir des présentations. En tout cas, il va y avoir différentes activités d'organiser. Alors, c'est ça, à la Bibliothèque Gabriel-Leroy, Journée mondiale zéro déchet, lundi prochain, le 30 mars. Ensuite, le comité Simplicité volontaire offre un autre café philo, café philosophique, le 1er avril, mercredi le 1er avril, à la librairie Le Mot de Tasse. Si vous voulez avoir le détail des différentes activités du comité Simplicité volontaire, vous pouvez aller sur notre site web, juste à écrire dans Google « Simplicitaire ». Simplicitaire, ça veut dire celui qui pratique la simplicité volontaire. Et là, vous avez la première entrée, c'est le site du comité Simplicité volontaire. Aussi, le 14 avril prochain, c'est au centre Frédéric Bac où est situé les Amis de la Terre, où sont situés les Amis de la Terre, on va avoir un cercle de discussion sur Aristote et l'écologie. C'est un diplômé en philosophie mexicain qui va venir nous faire une présentation. On va avoir un PowerPoint, on va avoir un document de présentation. Alors, si vous voulez vous initier à ce grand philosophe de l'Antiquité, Aristote, qu'on connaît moins, on en a moins parlé en toute simplicité, mais il fait partie de ce courant-là des philosophes de l'Antiquité pour qui la philosophie, c'était d'abord un mode de vie, une façon de vivre. Et d'ailleurs, pour nous, en simplicité volontaire, on a beaucoup parlé des textes qu'il écrit sur le bonheur, Aristote, comment être heureux, comment mener une bonne vie. Mais aussi, il a parlé de nature et d'écologie. Et c'est de ça qu'il va être question dans notre cercle de discussion. Alors, il y a une présentation d'environ 30 à 40 minutes sur Aristote et l'écologie. Puis ensuite de ça, c'est une discussion en groupe. Alors, c'est ça, le 14 avril prochain au Centre Frédéric Bac, 19h. Dans les lectures que j'ai retenues pour ma revue de presse, dans le Devoir de mercredi, le Québec pourrait économiser 10 milliards par année en essence. Un rapport du ministère de l'Économie associe la décarbonation à une forte amélioration de l'indépendance énergétique du Québec. Remplacer toutes les automobiles à essence du Québec par des solutions de mobilité décarbonées, dont des véhicules électriques, permettrait à la province d'économiser 10 milliards de dollars par année en carburant fossile, soit 2700 dollars par ménage. Cette estimation a été présentée par Normand Mousseau, le directeur de l'Institut de l'énergie Trottier, dans un rapport déposé fin février à la Régie de l'énergie, qui doit bientôt se prononcer sur le plan énergétique élaboré par le gouvernement du Québec pour les 25 prochaines années. En 2024, les Québécois ont brûlé 8 milliards de litres d'essence, sans compter le diesel, en postulant un prix d'environ 1,15 du litre. On est pas mal plus que ça présentement. Avant les taxes et la marge bénéficiaire des stations de service, on conclut que 10 milliards de dollars sont partis en fumée au bénéfice d'intérêts étrangers. Ce constat rejoint de récents travaux du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, qui voit aussi dans la décarbonation et l'électrification une avenue pour fortement améliorer l'indépendance énergétique du Québec. Le ministère prépare actuellement le premier plan de gestion intégrée des ressources énergétiques qui va tracer la trajectoire du Québec vers la carboneutralité en 2050. Autre texte dans le Devoir, c'était dans le Devoir de jeudi, le 26 mars. La facture des plus gros pollueurs sera encore plus lourde qu'estimée. Le coût économique des émissions de CO2 est bien plus important que ce qui avait été estimé jusqu'à présent selon une étude publiée mercredi qui rend les plus gros pollueurs responsables de milliers de milliards de dollars en dommages climatiques dans le monde. L'étude parue dans la revue Nature évalue qu'elle mesure le réchauffement climatique d'origine humaine, affecte l'économie et assigne une part des dommages à des émetteurs de gaz à effet de serre particuliers, qu'il s'agisse d'États ou d'entreprises du secteur des hydrocarbures. Les chercheurs estiment que les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2020 ont été la première cause des dommages climatiques, avec une facture de 10 200 milliards de dollars américains. C'est les États-Unis seulement. Suivent la Chine avec 8 700 milliards et l'Union européenne avec 6 400 milliards. Les émissions du géant pétrolier Saudi Aramco entre 1988 et 2015 ont causé pour leur part pour 3 000 milliards de dollars de pertes selon un calcul allant jusqu'en 2020. Alors, c'était dans le Devoir d'hier. Quelque chose de plus local. Rénovation majeure sur deux églises de Québec. Les églises de Saint-Jean-Baptiste et du Très-Saint-Sacrement de Québec feront l'objet de travaux majeurs. 4 millions de dollars sont déboursés pour maintenir ces points de repère visuels jugés sur le promontoire de la Haute-Ville. L'église du Très-Saint-Sacrement obtient la plus grande partie des sommes annoncées, plus précisément 2 millions et 2,5 millions de dollars du gouvernement du Québec et de la Ville. Cet argent s'ajoute aux 4 millions accordés par l'État québécois en 2022 au moment du classement de ce bâtiment imposant sur le chemin Sainte-Foy. Puis aussi, l'église, comme je disais, l'église Saint-Jean-Baptiste. Je trouve que c'est une bonne chose, c'est notre patrimoine architectural. Ces édifices-là sont recyclés. Dernièrement, j'ai été à la chapelle du séminaire, voir un spectacle. En fait, la chapelle du séminaire a été recyclée comme salle de spectacle. C'est magnifique comme endroit. Et ces architectures-là, c'est des joyaux. On ne pourrait pas aujourd'hui recréer ce genre d'édifice-là. Ça coûterait une fortune. Bonne nouvelle, deux églises de Québec, l'église Saint-Jean-Baptiste et l'église Saint-Sacrement que le gouvernement va investir pour les restaurer. Dernier texte que j'ai retenu dans le Devoir, c'est la chronique de José Blanchet d'aujourd'hui qui parle d'un livre, ça s'appelle « Ce qu'on trouve dans les cendres ». C'est de Nicolas Langelier. Lui, c'est le... En fait, il s'occupe de la revue qui s'appelle... c'est une revue québécoise, là, je vais vous le trouver tantôt. C'est une revue connue québécoise. Et voilà, elle dit « Tout peut sembler futile face à la fin du monde ». Cette phrase de Nicolas Langelier me hante depuis la minute où je l'ai lue, et je l'ai lue plusieurs fois. En fait, elle semble banale comme ça, un peu cliché, mais elle résume mon état d'esprit des dernières années, nos angoisses de nantis, me laisse de glace face à nos « first world problems », nos guérisseurs insignifiants, nos guéguerres insignifiantes. pour un oui ou pour un non, nos orties de nos chicanes sur un voile ou sur un troisième lien. Je ne suis pas seul à m'en soucier. J'ai lu deux fois, plutôt qu'une, l'essai choc du journaliste Nicolas Jean Langelier, fondateur et rédacteur en chef de la revue Nouveau Projet. C'est ça le nom de la revue. Ce qu'on trouve dans la cendre. À chacune des paritions de cette OVNI du magazine, je me précipite sur son texte d'introduction, une réflexion de fond écrite au grand angle par une plume douloureusement intelligente. Ce type d'intelligence condamne évidemment à une lucidité de Cassandre, de vigie isolée au sommet de son mât et à une solitude certaine. C'est certain que, justement, c'est... Le texte de l'essai de M. Langelier est un peu pessimiste. Et il voit qu'il pense que finalement, on n'arrivera pas là, à éviter la catastrophe climatique. Alors, c'est à lire, c'était dans le devoir, c'est dans le devoir d'aujourd'hui. Moi, je vais essayer d'être un peu plus. De voir l'autre côté, disons, de la médaille. Possiblement qu'on pourrait peut-être au moins essayer d'éviter le pire. Alors, c'est un peu ce que je vais vous lire là, tantôt là, dans ma lecture là, de philosophie et crise climatique. Alors, voilà, c'était mes lectures de la semaine. Au niveau de... Pour ceux qui s'intéressent, Henri-David Thoreau, dont je vous lis des extraits à chaque semaine... En début d'émission, il y a un texte, un livre qui vient de sortir qui s'appelle, le titre c'est Henri D. Thoreau, L'insoumis de Walden. C'est par Henriette Levillain, L-E-V-I-L-L-A-I-N. C'est aux éditions Flammarion. Ça a 250 pages. J'ai commencé à lire. Je vais vous revenir là-dessus. Je vais en lire un peu plus avant de parler du livre, mais à date, j'ai trouvé que ce livre-là vraiment bien fait, bien recherché, intéressant. La personne qui écrit le livre, professeur émérite à Paris-Sorbonne, est l'autrice de nombreux articles sur Saint-Jean-Perse, Marguerite Yourcenar ou Virginia Woolf. Et franchement, j'ai quand même trouvé intéressant. Elle a fait une bonne recherche, elle connaît bien son sujet. Alors, je vais vous revenir sur ce livre-là. Mais en tout cas, je vous le recommande. Ça s'appelle, comme je vous disais, Henri D. Thoreau, L'insoumis de Walden. En passant, j'avais déjà remarqué, mais elle l'explique très bien au début du livre, c'est que Walden, on a souvent accompagné le titre de Walden, Walden ou la vie dans les bois. Et quand Walden, le texte de Thoreau, le texte le plus connu de Thoreau, a été publié en 1854, le titre devait être « La vie dans les bois », parce que l'éditeur trouvait que c'était important là, que les lecteurs comprennent de quoi ça parle, puis que juste appeler ça Walden, c'était un peu vague. Et alors, il avait été entendu à la première édition qu'on appelle le texte « Walden ou la vie dans les bois ». Puis finalement, à la deuxième édition, en 1862, un peu avant que Thoreau décède, Thoreau avait demandé qu'on enlève « La vie dans les bois », que le titre du livre, c'est « Walden ». Et ce qui est drôle, c'est qu'on a conservé souvent, dans des éditions récentes même, le sous-titre « Ou la vie dans les bois », mais en fait... Et ce sous-titre-là ne devrait pas être là. Le titre du livre, c'est « Walden », ce n'est pas « Walden ou la vie dans les bois ». Alors, j'ai trouvé ça justement dans le livre de Mme Henriette Levillain aux éditions Flammarion. Alors, on prend une petite pause musicale, puis au retour, je vais vous lire là, des extraits de « Philosophie et crise climatique ».
Quand un jour je quitterai ce monde, je m'envolerai sans regret pour ma vie vagabonde. Je m'envolerai. quand je serai au bout de ma route, je m'envolerai pour quitter cette terre et tout si d'autre. Je m'envolerai, je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai quand mon tour viendra d'aller voir les anges. Je m'envolerai. Enfin libéré de mes chaînes, je m'envolerai pour un monde où il n'y a pas de haine. Je m'envolerai, je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai quand mon tour viendra d'aller voir les anges. Je encore quelques années de voyage et je m'envolerai. Encore quelques amours en partage et je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai quand mon tour viendra d'aller voir les anges. Je m'envolerai quand mon tour viendra d'aller voir les anges. Je m'envolerai.
Alors, c'était Fred Pellerin. Je m'envolerai. En début d'émission, j'avais Richard Séguin. C'était la chanson Promenade sur les chemins, le chemin de Walden. Alors, voilà, je vous lis des extraits de Philosophie et changement climatique, sous la direction de Marcel Côté et Steve Guampo, G-W-O-M-P-O. C'est aux éditions À propos. Alors, on dit jamais, le titre de l'essai, Jamais trop tard pour l'espérance. C'est un essai de Patricia Nourry, N-O-U-R-R-Y. Alors, on a des remarques préliminaires. Elle dit pour introduire un conférencier, il est coutume de présenter son parcours en soulignant quelques jalons professionnels, mais on pourrait procéder autrement, faire appel tout de suite à un autre régime d'idées qui appellerait de nouvelles manières de connaître et de dire. Cela suppose d'exposer certaines vulnérabilités, de franchir la ligne du risque. Alors, voici en quelques jalons d'où vient mon appétence pour la philosophie, dans quel terreau ont germé les idées que je vais présenter aujourd'hui. Ce terreau, c'est la plaine du Saint-Laurent où j'ai grandi, un horizon ouvert à perte de vue, une terre riche et verdoyante dans laquelle nous trouvions souvent des fossiles de la mer de Champlain. J'y ai appris les mises en abîme de l'histoire, les joies d'une vie simple et libre, le temps qui ne manque pas et l'enchantement des champs et des forêts. Une attention journalière au vivant a enrichi ma formation, m'a permis de développer des solides compétences en contemplation. J'ai eu d'excellents professeurs, dont certains marchaient à quatre pattes. Ma réflexion a aussi pour ancrage une blessure à mon amour de la vie, une peine immense, celle d'avoir vu ce sanctuaire de mon enfance ravagé en partie par une agriculture industrielle intensive et des coupes de bois massives. À 19 ans, j'ai eu besoin d'une thérapie puisque j'étais atteint d'un mal invasif. Je souffrais de pessimisme anthropologique chronique. Je suis donc parti à la rencontre d'autres perspectives sur le monde, d'autres manières d'être humain. C'est dans une favela de San Luis au Brésil que j'ai été formé. Une formation intensive de 3 mois à l'école de l'entraide, de la solidarité, de l'espérance et de la révolte. J'y ai rencontré des maîtres en sagesse qui m'ont révélé par-delà leur misère matérielle quelle pouvait être la grandeur de l'humain. Finalement, j'aimerais mentionner l'initiation aux questions politiques dont j'ai tiré profit auprès des sans-terre. Ces Brésiliens et Brésiliennes courageux et épris de justice qui s'engagent et luttent contre le système qui les exploite et les oppresse. J'ai intitulé ma conférence « Jamais trop tard pour l'espérance ». Et pourtant, nous vivons la fin d'un temps. Les populations d'animaux sauvages ont perdu en moyenne 73% de leurs individus en 50 ans. Selon Nature Climate Change, nous aurions dépassé 1,5 degré d'augmentation des températures et serions à 1,7. Le nombre de conflits a doublé dans le monde au cours des 5 dernières années et continue d'augmenter. 1% de la population de la planète a conduit la Terre et ses 7 milliards d'habitants à la catastrophe écologique. 6 des 9 piliers de l'habitabilité de la Terre sont compromis. Nous en sommes à la 6e extinction de masse, unique en son genre toutefois, puisqu'il s'agit en fait d'une extermination de masse très rapide, conduite par une partie de l'humanité dont nous sommes. En ce sens, je n'utiliserai pas le terme d'anthropocène, qui suppose une responsabilité également partagée par tous les humains. Dans certains endroits du monde, la crise climatique fait déjà grimper les températures à des niveaux insupportables et les estimations montrent qu'à l'échelle mondiale, environ 489 000 décès liés à la chaleur sont survenus chaque année entre 2000 et 2019. Nous assistons à une montée fulgurante de l'extrême droite et des régimes totalitaires un peu partout à travers le monde. La course à l'armement et la militarisation s'accentuent. Nous entamons une période de migration massive. Je pourrais continuer à détailler les multiples aspects de la catastrophe écologique actuelle, mais déjà, après ce tableau brossé sommairement, il est probable que quelque chose en vous se soit refermé, ne veuille plus entendre. Pourtant, présenter les chiffres, donner un portrait aussi objectif que possible, c'est essentiel pour se faire une tête et prendre la juste mesure des problèmes si l'on souhaite que nos réponses soient ajustées. Essentiel. Mais pour se faire un cœur, que faut-il? N'y a-t-il pas une intelligence qui sourd de là, qui saisit d'un coup l'ampleur et la dévastation, qui comprend viscéralement que c'est le fond de l'être qui est en jeu? Que faut-il encore pour que cet organe migre vers nos tripes, justement, pour que nous ayons assez de cœur au ventre pour oser une véritable métanoïa et nous engager dans l'action? Après avoir délégitimé les savoirs qui émanaient de ce cœur, muselé l'intelligence de notre corps, le temps est venu de les réhabiliter, de réapprendre à lier nos intuitions, nos émotions, nos sensations et nos réflexions à ce que nous savons de l'état du monde. Un abîme sépare à l'heure actuelle nos savoirs sur l'état de la planète et nos manières d'y vivre. Cela devrait suffire à nous convaincre, n'en déplaise à Descartes, que nous sommes des êtres très peu rationnels. Toutes les preuves scientifiques, tous les argumentaires s'additionnent et convergent depuis des décennies et nous vivons en parfaite dissonance cognitive avec eux, comme si de rien n'était, des apôtres du rien, englués dans un dévivre nihiliste. Ne rien dire, ne rien faire, parce que de toute façon, ça ne donne rien. On n'y peut rien, surtout ne pas y penser, sans méchanceté, sans fanatisme, en grande partie, par conformisme. Nous continuons à remplir nos rôles sociaux et respectons les règles d'un jeu mortifère qui détruit la vie. Ainsi, c'est bel et bien dans ce vide de la pensée que surgit le mal, la banalité du mal dénoncée par Hannah Arendt. On pourra en effet aligner les données chiffrées. Si on n'entre pas en résonance avec la désolation dont il parle, nous en perdons le sens. Si je m'attarde à ces considérations épistémologiques, pour le moins évidentes, c'est qu'il me semble que trop souvent nous sommes fascinés par nos modèles de compréhension scientifique. Nous accumulons des selfies sur l'état du monde sans qu'ils informent notre volonté et nos manières de vivre. Comme si quelque part entre la connaissance, le jugement et l'action, les courroies étaient cassées. Pierre Vadeboncœur. Ainsi donc, la conscience, de plus en plus dirigée sur l'événement, développe un intérêt envahissant pour le fait plutôt que pour le sens. Or, nous n'avons aucune prise sur ce qui se passe sans qu'on le pense. Tout au plus, cela occupe l'esprit, exactement comme un territoire l'est en temps de guerre. Il faut donc penser les crises actuelles, les penser intégralement en se servant des meilleurs modèles scientifiques, évidemment, mais aussi en activant ces autres organes de l'intelligence que sont le cœur et le corps. Penser avec tout notre être, enfin d'entrer en résonance, comme nous y invite Armut Rosa, avec la vie qui pulse en nous et autour de nous, cette vie qui nous contient et nous dépasse, dont nous sommes une expression unique, parfaitement dépendante des milliards d'autres expressions tout aussi uniques qui la composent. Le concept de résonance chez Rosa réfère en effet à des formes de relations où une personne s'engage, ose une connexion profonde avec son environnement, qu'il s'agisse d'autres personnes, de la nature ou même des institutions. Les relations ainsi tissées sont transformatrices, à l'inverse des relations aliénées qui instrumentalisent les personnes et le reste de la nature. Le philosophe et pisteur de Loup, Jean-Baptiste Morisot, croit aussi que ce qui a contribué à l'aliénation de nos relations aux autres animaux et à la nature, c'est, pour une part, le réductionnisme scientifique qui censure les ressentis du cœur et du corps. Il nous invite en ce sens à faire œuvre de science autrement, loin de l'opposition traditionnelle entre une attitude positiviste où le savoir désenchante, drapé dans le prétendu courage lucide de vivre dans un monde mort, d'être objectivé, et une attitude qui renonce au savoir au nom des effets esthétiques et affectifs, d'une surnature fantasmée. Il s'agit de comprendre que c'est pour mieux savoir qu'il faut enchanter. C'est parce qu'on sait mieux que l'enchantement advient. Alors, je prends une petite pause. Je reviens là pour... On va poursuivre avec l'essai de Madame Nouri dans le petit plaquette philosophie et crise climatique. Alors, c'était Verdi, Va pensieri, par l'opéra de Verdi. Alors, je poursuis avec l'essai là, sur, qui s'intitule « Jamais trop tard pour l'espérance » de Patricia Nourry. Se laisser toucher par les misères de ce monde et les souffrances qu'elles engendrent est une marque d'humanité, nous l'avons évoqué tantôt, mais tenter de débusquer, malgré la noirceur, les merveilles qui subsistent, contempler la beauté du monde et s'en émouvoir, tisser des liens riches avec les autres, humains et non humains, et s'en réjouir, c'est aussi faire son travail d'humain. Chacun d'entre nous avons vécu des instants où le temps s'arrête afin de nous faire sentir que ce moment précieux enrichit notre vue sur le monde, qu'il s'inscrira en nous, se mêlera à la substance la plus profonde et intime de notre être, comme si soudainement les destinées confuses vers lesquelles nous courons s'immobilisaient, rendant vaine la poursuite effrénée qu'on avait lancée après elles. La joie qui nous saisit alors, loin d'être une négation de la souffrance, assume la conduite humaine et exprime la gratitude qu'il y en a à être malgré tout. Sauf développer une qualité d'attention suffisante pour s'émouvoir devant la souffrance ou la beauté du monde, se connaître assez soi-même pour découvrir ce pourquoi nous sommes faits, ça prend du temps et après une journée de travail, il est souvent bien tard pour s'y arrêter. Il faut donc ralentir, il faut revoir notre rapport au temps. L'inverse du trop tard, le kairos. Ralentir, c'est tentant, mais comment y arriver? Difficile de ralentir lorsque le temps nous presse chaque jour davantage, que nous sommes incapables de reprendre notre souffle, que le temps s'accélère, comme l'a bien montré Armut Rosa dans son essai « Accélération ». Cette accélération fait peser sur les individus une énorme pression et leur laisserait un sentiment d'aliénation par rapport au monde et à leur propre vie. À titre d'exemple, nous produisons des biens et services de plus en plus variés, de plus en plus efficacement et rapidement, et nous les consommons et les jetons tout aussi vitement. Environ le tiers de la production alimentaire mondiale est gaspillée. Les messages informatisés ont remplacé les lettres, démultipliant ainsi par 10 milliards la vitesse à laquelle nous échangeons des informations. Les Américains dorment en moyenne 1h30 de moins par nuit qu'il y a 50 ans. De la même façon, nous mangeons plus vite et parlons plus vite. Comparativement aux années 50, nous prononçons environ 50% plus de mots par minute. Et que faisons-nous avec tout ce temps gagné? Nous le remplissons par de nouvelles activités encore chronophages. Bref, le monde est devenu moins stable, moins certain, plus mouvant et fluctuant, et nous sommes en constante adaptation par rapport aux nouveautés et aux changements techniques, institutionnels et personnels qui nous assaillent. Résultat, les dépressions et les épuisements professionnels sont en hausse. Même la nature est en burn-out et ne parvient pas à suivre le rythme. Nous extrayons, produisons, consommons sans qu'elle ait le temps de se régénérer. Pourtant, le temps est à nos esprits ce que l'oxygène est à la vie, si bien que pour ralentir, il faudrait parvenir à traiter le mal à la source en déparasitant nos conceptions du temps. Déparasiter le temps, l'exercice aurait certainement plu à Saint-Augustin, puisque cela permet d'en ressentir l'aporie, rejoindre un lieu du temps où se pose la question du sens. Car enfin, qu'est-ce que le temps? Le passé n'est plus le futur. Le futur n'est pas encore le présent. Cette substance fugace du futur qui file en passé et qui, si on tente de l'arrêter artificiellement dans une mesure, nous échappera encore. En effet, l'instant saisi dans une minute se divise en secondes, chacune d'elles se divisant en millièmes de seconde et ainsi de suite, pour toujours, puisque le temps est divisible à l'infini. Ainsi, à bien penser, le temps, on s'aperçoit qu'il ne manque jamais au présent. L'apparente mesure du tic-tac des horloges se détraque lorsqu'on examine ce principe et cède la place à la démesure du temps gigogne où chaque seconde s'ouvre sur une béance éternelle. Le temps révèle ainsi ses mises en abîme. Il suspend son cours, comme dit le poème, ce qui permet de le distendre suffisamment pour l'habiter, y insérer des pauses sans être simplement entraîné et broyé par sa course. Même que c'est maintenant ou jamais, dans la mythologie grecque, Kairos est une divinité avec une touffe de cheveux sur la tête qui passe parfois devant nous. Trois options sont alors envisageables. Il passe et on ne voit rien. Il passe, on le voit et on ne fait rien. La banalité du mal. Ou il passe et on le voit et on le saisit par les cheveux. Une brèche s'ouvre alors dans le temps et le moment devient opportun pour un renversement de situation. En fait, Kairos, ça veut dire le moment opportun. Le Kairos est en effet le point de jonction d'Aïon et de Chronos. Aïon étant un hors du temps et de la destinée qui peut ou non se réaliser, une sorte d'éternité. Tandis que Chronos, c'est le temps qui dévore, le temps linéaire. Kairos présente un autre visage du temps, une autre dimension à la croisée d'Aïon et de Chronos qui ouvre des passages. Le Kairos, c'est un destin à saisir entre la verticalité de l'éternité et l'horizontalité du temps linéaire. Alors, on prend une dernière petite pause musicale, puis on va conclure avec l'essai. À notre Kairos, qui est le moment important, on dit. Partout à travers le monde, des sociétés s'organisent autrement, certaines ayant saisi le Kairos pour déployer de nouvelles avenues sociétales portées par l'espérance. En ce sens, notre époque est à la fois terrible et passionnante. Elle met à l'épreuve des faits, nos principes, nos valeurs et nos philosophies. Elle dévoile ce que nous avons dans le cœur et dans le ventre. C'est une époque qui demande du courage, qui invite à l'audace, au saut dans le vide. Néanmoins, pour saisir ces moments favorables du Kairos et amorcer des transformations dans notre vie ou dans notre environnement, il faut avoir conservé une forme d'espérance. Or, cette dernière n'est possible qu'à condition de postuler l'altérité de l'avenir, son caractère imprédictible. L'espérance échappe à une logique algorithmique où le même génère le même abnoséum. Le futur est sombre. Il y aura des effondrements rapides à coup sûr de l'économie, du pétrole, d'une grande partie du vivant, de l'agriculture industrielle, des métaux disponibles. Si nous poursuivons la trajectoire dans laquelle nous nous inscrivons actuellement, et même si nous changions aujourd'hui nos comportements et nos sources d'énergie, en gardant les yeux braqués sur lui, sur ce chronos dévorant du temps linéaire, nous ne voyons qu'une fin du monde et perdons de vue qu'il s'agit de la fin d'un monde. L'avenir est d'un autre ordre. Il est ouvert à l'inattendu puisque l'improbable n'est jamais possible. Il pose comme postulat, non pas les tendances actuelles, mais la puissance de transformation du vivant. Quelque chose que je ne sais pas peut encore et toujours advenir. En cela, l'espérance n'est pas un désir, n'est pas un optimisme, n'est pas une attente, elle ne s'illusionne de rien, mais refuse de vider l'avenir de ses possibilités. Préserver l'espérance, c'est entrer en résonance avec l'intelligence et le potentiel créateur de la vie. C'est aussi vivre plus philosophiquement avec la sagesse de reconnaître qu'on sait qu'on ne sait pas. Ça, c'est Socrate qui dit que tout ce que je sais que je ne sais rien. C'est notre condition d'être humain, d'être ignorant. Mais il faut vivre avec, il faut essayer justement de s'intéresser à la philosophie, de vivre philosophique, vivre philosophiquement. En conclusion, lorsqu'un enfant vient au monde, où on ne se désole pas sur son cas, on ne l'abandonne pas en se disant que c'est un être qui va mourir. Lorsqu'on apprend qu'un proche est fragilisé, on ne se désengage pas de cette relation. On ne dit pas « il est trop tard » ni pour cet enfant, ni pour cette personne. Au contraire, on les entoure de soins. On développe une attention sensible à l'autre. On s'engage. On cherche à le mieux connaître. On favorise l'expression de ce qu'il est. Puisque la vie nous apparaît comme jamais dans toute sa préciosité et son unicité, on se connecte sur le cœur et l'amour s'en trouve décomplexé, les joies amplifiées. Les moments partagés échappent à la fuite du temps, nous transforment et se gravent dans les mémoires. De la même façon, chérissons les liens qui nous unissent aux autres êtres vivants sans chercher à nous en préserver parce qu'ils sont fragilisés. Le kairos passe, nous le voyons, saisissons-le par les cheveux et osons de nouvelles manières de penser et de vivre. Il est temps d'abandonner l'hédonisme facile pour chercher des joies plus durables, le dévivre nihiliste pour vivre pleinement et réaliser ce pourquoi nous sommes faits. Einstein aurait dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » Refusons ce vide de la pensée, la banalité du mal, et développons et expérimentons une pensée élargie, à la fois rationnelle, sensible et sensuelle. Osons vivre notre pensée en élaborant de nouvelles avenues. Unissons-nous et cherchons sans relâche à ouvrir des voies d'apaisement dans nos rapports à la vie. Les chantiers philosophiques, en ce sens, sont nombreux et enthousiasmants. Alors, c'était un essai, là, je vous ai lu en partie, là, un essai publié dans le livre qui vient de sortir en librairie, « Philosophie et crise climatique » sous la direction de Marcel Côté et Steve Guampo. Et l'essai, c'était « Jamais trop tard pour l'espérance » de Patricia Nourry. On a eu aussi... La dernière pièce musicale que je vous ai passée, c'était de l'album de Music of Hildegard von Bingen et c'était de Living Light Instrumental. Alors voilà, c'est la fin de l'émission. Alors bonne semaine à tous. On se voit la semaine prochaine.
Radio Urbaine.
Salut, c'est François Laplace, boutique gourmande. Tu veux faire une différence dans le quartier? Ben nous, on embarque avec toi. Comment? Si tu achètes une carte cadeau de 20 $ nous, on va la bonifier en ajoutant 5 cafés. Comme ça, tu peux l'offrir à quelqu'un de la rue et vraiment faire une différence, et ça, dans l'intimité. Passe nous voir au coin du pont Saint-Joseph, à deux pas de Sequoia. Voilà.
La prochaine danse, c'est un sujet qui vous interpelle? Action Chômage de Québec vous convie à une discussion autour du livre « La prochaine danse au chevet d'un système malade ». Dans un essai percutant et rigoureusement documenté, Gabrielle Pelletier et Maude Pelletier-Smith dressent un portrait lucide d'une réalité trop souvent reléguée dans l'ombre. Intervenants, militantes et proches aidants, soyez-y le vendredi 3 avril dès 19h à la librairie Le Mot de Tasse au 1394 Chemin Sainte-Foy.
Coupures budgétaires, mises à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle, les vendredis à midi sur les ondes de CKIA FM 88.3.
Et toi, tu cherches du rock de qualité et pas cher? Dirige-toi tout de suite vers l'entrepôt du rock avec des morceaux de qualité comme... Cette offre est d'une durée limitée.
Juste une heure chaque semaine.
L'entrepôt du rock avec Yannick Plouffe. Une seule adresse pour vous servir. Vendredi 20h sur CKIA 88.3.
Bonjour, ici Juliane Perrault. Voici votre bulletin du vendredi 27 mars 2026. Jusqu'au 2 avril, le bulletin de nouvelles de CKIA est remplacé par un bulletin de